Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Bonjour et bienvenue à notre cours biblique. Nous étudions l'Évangile selon Marc, le deuxième livre du Nouveau Testament. Voici le 11e épisode de notre série. Nous sommes au chapitre 1 de Marc, et la dernière fois, nous avons commencé l'étude de l'histoire d'un lépreux et de sa guérison par Jésus. Lisons ces récits à partir du verset 40. Un lépreux s'approcha de lui, le supplia, se prosternant devant lui, et lui dit « Si tu veux, tu peux me purifier ». Ému de compassion, Jésus étendit la main, le touchant et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Ce lèpre vient à Jésus pour être guéri et Jésus l'est guéri. La dernière fois, nous avons examiné plusieurs passages bibliques où Dieu utilise la lèpre comme image de notre impurité devant un Dieu saint. Nos péchés nous rendent impurs devant un Dieu saint. Tout comme ce lèpre était rituellement impur selon la loi de l'Ancien Testament, Jésus guérit la lèpre de cet homme, ce qui illustre comme il guérit l'impurité de nos péchés devant un Dieu saint. Jésus guérit l'impurité de nos péchés en payant l'épée de ses péchés sur la croix, puis en avant, demeure en nous pour nous guider sur les voies du Seigneur. Avant d'examiner ce récit chapitre 1 plus en détail, penchons-nous sur un autre incident biblique concernant la lèpre. Nous allons lire l'histoire d'un grand capitaine de l'armée syrienne il y a plus de 2500 ans. Cet homme nommé Naaman était le puissant capitaine de l'armée, mais il était lépreux. Naaman suivait le dieu des Syries, mais grâce au témoignage d'une jeune esclave, il fut guéri de sa lèpre et s'est mis à croire au dieu de la Bible. Chaque fois que je lis ces récits, comme nous allons le faire, concernant cette jeune esclave, son témoignage après de ce grand général, je suis toujours encouragé à témoigner du Seigneur Jésus. Nous allons lire en commençant par le deuxième livre des rois au chapitre 5. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme important auprès de son maître et respecté car c'est par lui que l'Éternel avait délivré la Syrie. C'est aussi un homme veillant, mais il était lépreux. Les Syriens étaient partis en groupe et avaient amené captive du pays d'Israël une jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maître, « Si seulement Dieu, mon Seigneur, était avec le prophète qui est en Samarie, il guérirait de sa lèpre. » Quelqu'un est allé rapporter ses paroles à son maître et ainsi a parlé les servantes venues du pays d'Israël. Le roi de Syrie dit « Va, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit donc, emportant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman se rend en Israël et parle au prophète. Celui-ci l'ordonne d'aller se laver dans le Jourdain. Malgré quelques objections, Naaman obéit. Nous poursuivons notre lecture au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair devint comme celle d'un petit enfant. Il fut purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et se présentant devant lui, il dit, « Voici, je sais maintenant qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » Si c'est né en Israël, je t'en prie donc d'accepter la bénédiction de ton serviteur. Mais il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant devant qui je me tiens. Je n'en servis point. Naaman insiste pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, ne donnera-t-on pas à ton serviteur le poids de 2000 chargés de terre? car désormais ton serviteur n'offrira ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux, mais seul à l'Éternel. » Ce puissant capitaine de l'armée syrienne s'est mis à la confiance en Dieu de la Bible. Et cela se manifeste par le fait qu'il a été guéri de sa lèpre, confirmant ainsi l'enseignement selon lequel Dieu utilise la lèpre comme image du péché. Tout a commencé par cette simple déclaration de cette jeune esclave. C'est un récit merveilleux, car nous y voyons la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu sauve ce grand général syrien et le guérit également de sa lèpre. Nous nous réjouissons du salut de cet homme, qui auparavant était loin du Dieu de la Bible et de son adoration d'autres dieux. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le prophète que Dieu a utilisé pour guérir Naaman était un homme nommé Élisée. Il était un prophète très important dans l'ancien Israël, il y a environ 2500 ans. Ce prophète avait un serviteur nommé Géaz. Cet homme Géaz avait apparemment servi le prophète de Dieu pendant quelques années. Mais il semble qu'il a commencé à convoyer les choses de ce monde. Vous vous souvenez peut-être que nous avons lu plus tôt l'histoire du roi des Syriens qui avait donné à son capitaine d'armée, Naaman, une grande somme d'argent pour payer sa guérison. Après sa purification, Naaman offra l'argent au prophète, mais le prophète de Dieu refusa de recevoir quoi que ce soit. Ceci met en valeur la vérité. Nous devons annoncer l'évangile gratuitement. Cependant, comme nous l'apprenons, Géaz voulait prendre une partie de cet argent pour lui-même. Nous poursuivons notre lecture au verset 20. Nous lisons. Mais Géaz, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit: voici, mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne recevant pas de sa main ce qu'il a porté. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, je courrai après lui et je prendrai quelque chose de lui. Géaz suivit donc Naaman. Lorsque Naaman les vit courir après lui, il décida de son char pour aller à sa rencontre et lui demanda « Tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie, disant « Voici deux jeunes gens, fils des prophètes, sont venus à moi de la montagne d'Éphraïm. Donnez-leur, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman répondit: contente-toi de deux talents. Naaman insiste et il mit deux talents d'argent dans deux sacs avec deux vêtements de rechange. Il confia à deux de ses serviteurs qu'ils porteront devant lui. Géaz convoite cet argent. La Bible nous enseigne à ne pas convoiter les choses de ce monde, mais plutôt à aimer Dieu et à nous contenter de ce qu'il nous donne. Géaz ment et prétend avoir été envoyé chercher quelque chose pour des jeunes hommes venir rendre visite au prophète Élisée. Mais tout cela était mensonge. Géaz obtient le détalant d'argent, une somme considérable. Tout cela fut fait de manière malhonnête et montra que Géaz convoite les biens de ce monde, ce que la Bible interdit. Continuons les récits. Nous lisons à partir du verset 24. Lorsqu'il arriva à la tour, il prit dans les mains et les déposa dans la maison. Puis il les laissa partir et les laissa en les rangs. Mais Géaz entra et se présenta devant son maître. Élisée lui demanda: d'où vient-il, Géaz? Il répondit: ton serviteur n'est allé nulle part. Élisée lui dit: mon cœur n'était-il pas avec toi lorsque cet homme est retourné de son char pour te rencontrer? Et c'est le temps de recevoir de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. C'est pourquoi la peur de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et sortit de sa présence le prêt blanc comme neige. Le prophète Élisée appelle Géaz et lui demanda où il est allé. De toute évidence, Dieu avait révélé au prophète ce qui était passé. Gehaz, dans une situation difficile, mentit. Il dit qu'il n'était allé nulle part. Alors le prophète Élisée rappela à Gehaz que lorsque le salut arrive à quelqu'un, ce n'est pas le moment de penser à l'argent. Et là, une chose horrible arrive à Gehaz. La lèpre de Naaman le frappa et le rongera à jamais. Et Gehaz laissait derrière lui un lèpre blanc comme neige. Nous assistons à un renversement de situation. Naaman était lèpre et pourtant il fut guéri. Ceci souligne l'enseignement que Naaman a reçu sauvé. Il se détourna de faux dieux qu'il suivait et se mit à faire confiance au Dieu de la Bible. En revanche, Gehaz, qui n'était pas lèpre, devient lèpre. Ceci démontre que Gehaz n'avait jamais été sauvé. Il semble croire au Dieu de la Bible. Il était le proche serviteur du prophète en Israël à cette époque. Mais sa confiance n'était pas en le Dieu d'Israël. Il aimait plutôt ce monde. Et plus tard, le mal se manifeste en lui, le poussant à mentir et à s'emparer de l'argent qui ne lui appartient pas. La lèpre qui l'a frappé était le signe que Gehaz n'avait jamais été ainsi sauvé. Il n'a jamais été purifié de son péché. Revenons maintenant à Marc chapitre 1 et observons quelques autres passages sur la guérison de ces lèpres. Nous lisons à partir du verset 40. Un lèpre s'avéra de lui, le souhaita, se gagna à ses yeux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus émit compassion, attendit la main, le touchant et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt qu'il ait parlé, la lèpre le quitta et il fit purifier. Les actions de ces lèpres sont très remarquables. Nous voyons qu'il implore le Seigneur Jésus. Implorer signifie supplier et supplier. Il suppliait le Seigneur Jésus de le guérir. Peut-être n'aimons-nous pas l'ode de supplier Dieu, car cela heurte notre orgueil. Cependant, notre orgueil nous causera bien des ennuis avec Dieu. Cet homme est donné en exemple de quelqu'un qui s'approche du Seigneur Jésus en l'implorant. Nous lisons également qu'il était à genoux. S'agenouiller est une forme d'adoration, est un acte de soumission à celui qui a autorité sur nous. S'agenouiller devant Dieu se présente aux saintes figures, c'est lui rendre honneur et gloire et se soumettre à lui. Ensuite, nous remarquons que cet homme reconnaît que Jésus est capable de le guérir de sa lèpre. Il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Cet homme reconnaît que Jésus peut le guérir de sa lèpre, ce qui est tout à fait extraordinaire. À cette époque, il n'existe aucun médicament capable de traiter ou de guérir la lèpre. Pourtant, cet homme avait apparemment vu ce que Jésus pouvait faire, croire qu'il venait de Dieu. Ainsi, si Jésus voulait le guérir, il pouvait le faire. L'attitude de cet homme est un bel exemple pour nous tous qui cherchons la guérison de la lèpre, cette maladie causée par nos péchés. La voie biblique pour s'adresser à Dieu et obtenir le salut, à le supplier humblement de nous accorder ce salut. Cela ne s'accorde pas avec l'orgueil, mais c'est l'approche biblique. Ceci nous rappelle l'illustration que Jésus a donnée dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Jésus parle d'un pharisien, membre des enseignants religieux de l'époque, qui se croyait juste. Le deuxième homme de cette illustration est un publicain ou collecteur d'impôts qui exerce une profession méprisée. Nous lisons à partir du verset 9. Il adressa cette parabole à certains qui s'y croyaient juste et méprisaient les autres. Deux hommes monteront au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Les pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme à tout ce que je possède. » Le publicain, se tenant à distance, n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, pécheur !» Je vous l'ai dit, cet homme est rentré chez lui justifié plus que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus donne cette parabole pour avertir ceux qui se croient justes. Les pharisiens ou maîtres religieux, se vantant de sa propre justice et s'en prenant même aux publicains ou aux collecteurs d'impôts, s'y méprisaient. Mais les collecteurs d'impôts s'est approché humblement et s'est simplement qualifié pécheur. Il a simplement imploré la miséricorde de Dieu sans chercher à mettre en avant ses propres mérites. Jésus raconte que le collecteur d'impôts est parti justifié, ce qui signifie qu'il a été sauvé. Mais le maître religieux, lui, ne l'a pas été. En résumé, si nous nous élevons, ce qui est le sens même de l'orgueil, alors Dieu nous abaissera. Et ceux qui chinament seront exaltés par Dieu. Cette exaltation et cet abaissement se produisent aujourd'hui du jugement. Ainsi, ce passage contribue à renforcer la vérité biblique selon laquelle nous devons nous approcher humblement de Dieu et lui demander le salut. Cela concorde avec les récits du lépreux dans Marc chapitre 1 qui s'appelait « Le Seigneur s'agenouillait devant Dieu ». Dieu identifie également la prosternation devant lui comme un acte d'adoration. Et nous voulons nous souvenir que Jésus est Dieu. Ainsi, lorsque ces lépreux se prosternent devant Jésus, il est prosterné devant Dieu. Parce que Jésus est Dieu, l'apôtre Matthieu était inspiré, décrit dans son évangile chapitre 1, verset 23, au sujet du Seigneur Jésus. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Il était tout à fait convenable pour ces lépreux de s'agenouiller et d'adorer Jésus, car Jésus est Dieu. Lisons un passage qui nous exhorte à nous prosterner et à nous agenouiller devant Dieu. Nous lisons dans le psaume 95 à partir du verset 3. « Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre. La force des montagnes lui appartient. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme est formée par ses mains. Venez, prosternons-nous et adorons. Agenouillons-nous devant l'Éternel, notre Créateur. » Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau qu'il conduit. Ici, Dieu souligne qu'il est le grand Dieu et le grand roi et qu'il est au-dessus de tout. Ensuite, Dieu insiste sur le fait qu'il a créé toutes choses et que toutes lui appartiennent. C'est un élément important. Par conséquent, nous lisons dans la suite que nous devons adorer ce qui signifie nous soumettre à l'autorité de Dieu sur nous. Et nous devons nous incliner, nous agenouiller devant Dieu, notre Créateur. Il nous a créés, il règne donc sur nous, et nous devons nous incliner devant lui. Ces principes se manifestent dans la manière dont ces lèpres viennent à Jésus. Revenons à Marc chapitre 1. Ces lèpres reconnaissent également que Jésus à l'éprouver de la guérie. Il déclare à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il reconnaît que Jésus a le pouvoir de les guérir. Lorsque nous nous retournons vers Dieu pour le salut, nous reconnaissons qu'il peut nous sauver. Mais en même temps, nous reconnaissons qu'est-ce que ce lèpre a reconnu, que si Dieu le veut, il nous sauvera. Le salut est un don de Dieu, accordé selon sa volonté. N'oublions pas que Jésus offre ses dons à un prix immense. Jésus a dû souffrir autant que chacun de ceux qu'il sauve passerait une éternité en enfer pour leurs péchés. Jésus a pu le faire parce qu'il est le Dieu éternel. Ainsi, pour que Dieu puisse sauver chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus a consenti un sacrifice immense. Dans l'Épître aux Romains chapitre 9, Dieu souligne sa souveraineté en matière de salut. Nous allons lire à partir du verset 15. Car il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dans ces passages, Dieu souligne sa souveraineté en matière de salut. Dieu affirme qu'il aura pitié de ce qu'il fera miséricorde. Le salut est un don de Dieu, un don immérité, et son acquisition exige de grands sacrifices. Soyons donc humbles, reconnaissants de pouvoir de prier Dieu pour ses dons merveilleux. Ces principes se trouvent dans cette déclaration du lèpre au Seigneur Jésus. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Nous nous réjouissons de voir la réponse du Seigneur Jésus au verset 41 du chapitre 1 de Marc. Nous lisons « Jésus ému de compassion, étendit la main, le touchant et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Voici une merveilleuse vérité, la grande compassion et la miséricorde de Dieu. Nous lisons que Jésus fut ému de compassion. Voici une vérité extraordinaire. Dieu est infiniment miséricordieux et compatissant. Ainsi, malgré tous nos péchés, le salut demeure possible. Nous lisons un passage très encourageant sur les miséricordes de la patience de Dieu dans le psaume 103. Nous lisons à partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il conteste sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous a pas punis selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Nous lisons de nombreux passages encourageant sur la miséricorde de Dieu dans le salut. Puis ces passages nous encouragent à chercher Dieu pour notre salut. Revenons aux lèpres dans Marc chapitre 1. Nous lisons que Jésus a touché cet homme. Nous lisons que Jésus étendit la main et le toucha. Ceci est significatif car, selon l'Ancien Testament, quiconque toucha un lèpre devient impur. Nous apprenons cela en consultant les livres du Lévitique. Nous lisons au chapitre 13 à partir du verset 44 à propos du lèpre. C'est un lèpre, il est impur. Le prêtre le déclara entièrement. Impur, sa plaie est dans sa tête. Quant au lèpre atteint de la plaie, il déchira ses vêtements, aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Tant que la plaie le rognera, il sera souillé, il sera impur, il habitera seul, hors du camp. Dieu dit à plusieurs reprises qu'un lèpre est rituellement impur. En réalité, les lèpres devaient crier « Impur, impur !» Ceci afin d'éviter que quiconque passant par là ne les touche accidentellement. La Bible enseigne que quiconque touche une personne impure devient impur. Nous lisons ceci dans les livres du Lévitique au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 2. Lorsque quelqu'un, sans en apercevoir, touchera une chose essuyée comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien des reptiles, il deviendra lui-même impur et le rendra coupable. Ou s'il touche à ce qui est impur chez un homme, quelle que soit l'impurité dont il sera souillé, qui lui sera caché lorsqu'il en aura connaissance, alors il sera coupable. Nous lisons que quiconque touche quelque chose d'impur devient impur. Cela inclut le fait de toucher un lèpre, car un lèpre est rituellement impur, selon ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 13. Ainsi, en touchant ces lèpres dans Marc chapitre 1, Jésus s'est rendu rituellement impur. Ceci est très significatif lorsque nous nous souvenons de la vérité de l'évangile que Dieu enseigne avec la plaque de la lèpre. La lèpre est une image de notre impurité devant un Dieu saint, Dieu en nos péchés. Jésus est devenu rituellement impur en touchant ses lèpres. De même, Jésus était impur aux yeux de Dieu, car il a pris sur le péché et tout ce qu'il était venu sauver. Cela a rendu Jésus très pécheux aux yeux de la justice de Dieu, non pas à cause de ses propres péchés, mais à cause des péchés de ceux qu'il était venu sauver. Plusieurs versets bibliques enseignent cette vérité. Nous lisons dans la deuxième épître des Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, ce que Dieu a fait au Seigneur Jésus. Nous lisons. « Car celui qui n'a point connu les péchés, il fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a été fait le péché pour vrais croyants, c'est-à-dire que leurs péchés ont été mis sur le Seigneur Jésus et qu'il a dû l'expier. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Isaïe, au chapitre 53, que les péchés des croyants ont été imposés sur le Seigneur Jésus. Nous lisons à propos du Seigneur Jésus à partir du verset 5. « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous lisons que Jésus a souffert pour les péchés des croyants, comme l'iniquité, ses passages. Il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Nous lisons aussi que les péchés des croyants ont été mis sur le Seigneur Jésus, comme l'iniquité, ses passages. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. »
Nous devons conclure notre étude pour aujourd'hui. Nous continuerons cette étude la prochaine fois.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.